Je suis vers la fin du livre des Nombres et on se rapproche du moment où la conquête du pays de Canaan va commencer. En fait, dans le prochain chapitre, va déjà avoir lieu une opération militaire. À partir d'ici, le chapitre 31 du livre des Nombres, et jusqu'à la fin, je vais seulement souligner les événements importants. Le premier incident est une expédition punitive. Il s'agit du châtiment de la tribu idolâtre qui avait séduit Israël, ainsi que l'exécution du conseiller perfide qui lui avait suggéré cette manœuvre et qui s'appelle Balaam. La conduite des Madianites avait été infâme, fourbe et exécrable à plus d'un titre. En effet, ils étaient vassaux et rançonnés par le roi Sihon des Amoréens. Mais après qu'Israël les détruisit, les Madianites furent libérés de leurs ennemis. C'est alors qu'en guise de remerciement, ils essayèrent d'éliminer leur libérateur. Cette campagne militaire sera le dernier acte officiel de Moïse. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse et lui dit « Fais payer aux Madianites le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu iras rejoindre tes ancêtres décédés. » Moïse s'adressa au peuple en disant « Que certains de vos hommes s'équipent pour partir en campagne et qu'ils aillent attaquer les Madianites pour leur infliger un châtiment de la part de l'Éternel. » On mobilisa donc 1000 hommes par tribu parmi les corps d'armée d'Israël, soit 12 000 hommes armés pour le combat. Moïse les envoya au combat avec Phinéas, fils du prêtre Éléazar, qui portait les objets sacrés et les trompettes pour donner le signal. Verset 1 à 6. Il ne s'agit pas d'une agression de la part d'Israël, car il est clairement indiqué que cette campagne est ordonnée par l'Éternel, qui doit venger son honneur, terni par la chute morale de son peuple. En effet, les Madianites, soutenus par les Moabites, avaient essayé de deux façons différentes de se débarrasser des Hébreux. Une première fois en les faisant maudire par Balaam le devin, et une autre fois par le biais de leurs femmes en introduisant l'idolâtrie et la débauche parmi le peuple, ce qui avait déclenché un jugement divin coûtant la vie à près de 24 000 Israélites. Je continue le texte. Ils marchèrent contre Madian comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes, y compris 5 rois de Madian. Ils firent aussi périr par l'épée Balaam, fils de Béor. Ils firent prisonniers les femmes des Madianites et leurs enfants et s'emparèrent de toutes leurs bêtes, de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens. Versets 7 à 9. La première leçon n'a pas bien été apprise des Israélites. Ils ramènent avec eux ces mêmes femmes qui avaient été à l'origine de leur jugement. Je continue un peu plus loin et finis ce chapitre. Moïse se fâcha contre les commandants de l'armée, chefs des milliers et chefs des centaines, qui revenaient du combat. Il leur demanda « Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Versets 14 à 16. Dans les guerres ordinaires, la vie des femmes est respectée, mais dans ce cas, elles furent condamnées à périr parce que c'était elles qui avaient manigancé la chute morale des Israélites en les incitant à l'idolâtrie et à la débauche. Ce texte très dur fait apparaître la justice inflexible de l'Éternel. D'une part, les Madianites furent punis, d'autre part, dans la partie que je n'ai pas couverte, il est fait référence au butin qui fut l'objet d'un partage complexe parce que équitable. Plus loin dans le chapitre, il y a aussi question de tous les objets saisis, ainsi que des combattants et des prisonnières qui doivent passer par un processus de purification rituelle. Je commence maintenant le chapitre 32, dans lequel Moïse a encore un problème à régler. Je lis en compressant. Les descendants de Ruben et de Gad avaient de très grands troupeaux. Ils constatèrent que les pays de Yaézer et de Galaad convenaient bien à l'élevage. Alors ils vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les chefs de la communauté et leur dirent « Ce territoire que l'Éternel a soumis aux Israélites est un pays favorable à l'élevage. Or, tes serviteurs possèdent de nombreux troupeaux. » Puis ils ajoutèrent « Si tu veux bien nous accorder une faveur, attribue à tes serviteurs la possession de ce pays et ne nous fais pas traverser le Jourdain. » Versets 1 à 5. Il s'agit là de deux territoires situés à l'est du Jourdain, en Transjordanie, et séparés par le torrent du Yabok. Le texte donne aussi la liste des villes de cette région. Elles faisaient toutes partie du royaume de Sihon, conquis par Israël. À l'origine, la limite orientale de la terre promise aux Israélites était le Jourdain. Si les Amoréens n'avaient pas récemment chassé les Moabites pour s'installer à leur place du côté est du fleuve, cette requête de Ruben et de Gad n'aurait pas eu lieu. Je continue en compressant. Moïse répondit aux membres des deux tribus. « Vous voulez rester ici pendant que vos compatriotes vont à la guerre. Pourquoi découragez-vous les Israélites de se rendre dans le pays que l'Éternel leur donne ? C'est exactement ce qu'ont fait vos ancêtres quand je les ai envoyés de Kadesh pour explorer le pays. Ils ont observé le pays et, à leur retour, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur destinait. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et il les fit errer dans le désert durant 40 années jusqu'à l'extinction de toute la génération qui avait mal agi envers l'Éternel. Et maintenant, voilà que vous prenez le relais de vos pères comme une race de pécheurs pour attiser encore davantage l'ardente colère de l'Éternel contre Israël. » Versets 6 à 9 et 13 à 14. Moïse n'avait pas besoin de ce pépin. Il est troublé et reprend sévèrement ses petits blancs-becs. Le funeste souvenir de la révolte de la génération précédente, qui fut si lourde de conséquences, est bien présente à son esprit. Il y a presque 39 ans de cela, suite au rapport des espions envoyés en éclaireur, le peuple avait refusé d'entrer en Palestine. Dieu l'avait alors condamné à tourner en rond dans le désert jusqu'à ce que meurent tous les hommes âgés de plus de 20 ans. Moïse craint que la même chose se reproduise maintenant. En effet, les autres tribus pourraient aisément perdre courage en se voyant amputées d'une partie considérable de leur effectif militaire à la veille de la conquête. De plus, les autres Israélites pourraient facilement devenir jaloux en voyant leurs frères s'établir paisiblement dans le pays qu'ils venaient de conquérir tous ensemble, tandis qu'eux-mêmes partaient au casse-pipe. Je continue en compressant. « Non, répondirent-ils à Moïse, nous construirons seulement des enclos ici pour nos troupeaux de moutons et de chèvres et des villes pour nos familles. Quant à nous, nous nous armerons sans tarder pour marcher à la tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer dans le territoire qui leur revient. Nos familles seules resteront dans les villes fortifiées où elles seront à l'abri des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers avant que chacun des Israélites ait pris possession de l'héritage qui lui revient. » Versets 16 à 18. Les reproches de Moïse ont secoué, humilié et stimulé tous ces gens. Les tribus de Ruben et de Gad proposent alors une solution un peu boiteuse en se portant même volontaires pour marcher en première ligne lors de la conquête. Quoi qu'il en soit, Moïse accepte le marché. Je continue un peu plus loin. Alors Moïse octroya aux descendants de Gad et de Ruben, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sihon, roi des Amoréens, et celui d'Og, roi du Basan, c'est-à-dire leur pays avec leurs villes et les terres qui en dépendaient. Verset 33. Ces deux tribus ennemies ont-elles tenu leur parole? Oui et non. D'après d'autres textes, elles disposaient d'environ 110 000 guerriers, mais n'en ont envoyé que 40 000 à la guerre avec les autres tribus. De plus, au niveau spirituel et moral, ils devinrent décadents. Des siècles plus tard, Jésus et ses disciples rendirent visite à ces territoires et découvrirent que les habitants étaient engagés dans le commerce du porc, un animal impur selon la loi. Et après que le Christ ait délivré un démoniaque, les gens de la ville le supplièrent de quitter leur région. Voilà quel était le triste état des descendants de ces tribus qui refusèrent de franchir le Jourdain et d'aller en terre promise. Nous voici parvenus au chapitre 33 du Livre des Nombres, qui est un catalogue de 40 stations depuis le point de départ, Ramsès en Égypte, de la génération précédente, il y a 40 ans de cela, jusque maintenant dans les plaines de Moab. Je commence à lire. Voici les étapes des Israélites depuis leur départ d'Égypte, rangés en ordre sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Sur ordre de l'Éternel, Moïse consigna par écrit leur lieu de campement, d'étape en étape. Voici donc quel fut leur itinéraire. Le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s'en allèrent librement sous les yeux de tous les Égyptiens qui enterraient tous leurs fils aînés que l'Éternel avait frappés pour exercer ses jugements contre leur divinité. Verset 1 à 4. Suit alors une longue liste monotone, comme lorsque quelqu'un rentre d'un voyage et se contente d'énumérer toutes les villes qu'il a traversées. Au-delà de son intérêt géographique et historique, ce catalogue d'étapes met l'accent sur l'épreuve que furent ces 40 années dans le désert pour Israël, et plus encore la protection que l'Éternel a accordée à son peuple durant toutes ses pérégrinations. De ces 40 stations, 20 sont nommées explicitement dans les autres livres de Moïse, et 20 sont totalement inconnues. L'auteur est si concis dans son énumération qu'il ne fait aucune mention du séjour pourtant d'un an au pied du mont Sinaï, ni des arrêts à Kadesh, d'où les espions de la première génération furent envoyés. De plus, certains des campements mentionnés préalablement dans le Livre des Nombres sont eux aussi passés sous silence. Le fait que l'Éternel voulait que Moïse couche sur le parchemin tous ses noms avait aussi, par analogie, un but pratique pour moi. Car pour Dieu, tout compte. Il se souvient d'où je viens et par où je suis passé. Il connaît mon chemin et je peux aussi espérer qu'il me conduira dans la mesure où je lui fais confiance. Le texte rappelle aussi le lieu de la mort du grand prêtre, parce qu'il était un personnage important. C'était l'intermédiaire sacré entre l'Éternel et le peuple. C'est lui qui couvrait leurs fautes au moyen des sacrifices. Finalement, Israël arriva à la 40e station dans les plaines de Moab, et je continue le texte. C'est là que l'Éternel s'adressa à Moïse dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain en face de Jéricho, pour lui dire « Dis aux Israélites, lorsque vous aurez traversé le Jourdain pour pénétrer dans le pays de Canaan, vous déposséderez en votre faveur tous les habitants du pays et vous détruirez toutes les idoles de pierre sculptées et toutes leurs statues de métal fondu. Vous démolirez tous leurs hauts lieux, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez car je vous ai donné le pays pour qu'il vous appartienne. Vous le partagerez par tirage au sort entre vos familles, attribuant un patrimoine plus grand à ceux qui sont plus nombreux et un plus petit à ceux qui le sont moins. Chacun acceptera comme son patrimoine foncier celui que le sort lui attribuera. Vous ferez le partage entre vos tribus. » Versets 50 à 54. Ce passage donne les directives concernant la conduite à tenir à l'égard des Cananéens et le partage du pays promis entre les différentes tribus. Quelqu'un pourrait objecter que c'est pas juste de chasser et de décimer des peuplades qui vivent tranquillement dans leur pays et qui ne font de mal à personne. Il faut garder à l'esprit que ce monde est la propriété exclusive de Dieu et que donc il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Un passage d'un psaume dit ceci. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui et avec ceux qui l'habitent. » Fin de citation. En second lieu, Dieu a décidé l'extermination des Cananéens pour des raisons précises. Non seulement ils étaient idolâtres à un degré inimaginable, mais leur mode de vie était particulièrement détestable. Dans le domaine sexuel, ils avaient atteint un niveau de déchéance jamais égalé et qui touchait l'ensemble de la population. Ensuite, dans la conduite de leur culte, ils sacrifiaient leurs petits-enfants à leurs faux dieux, Baal ou Moloch. Ce n'est pas tout. La Palestine est située au carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie où se croisaient des voies de communication commerciale importantes. En conséquence, les Cananéens exportaient leurs croyances et leurs pratiques, empoisonnant ainsi une grande partie du monde. C'est pourquoi Dieu voulut y mettre fin en utilisant Israël. Ce que l'Éternel demandait à son peuple de faire est comparable à une opération chirurgicale qui ôte la partie malade afin de préserver le reste. Lors du déluge, c'était toute la civilisation humaine pervertie qui avait subi le jugement divin. Noé et sa famille seuls en rescapèrent. Je finis ce chapitre. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. Alors c'est vous que je traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Versets 55 à 56. Cette dernière parole équivaut à une menace de déportation hors du pays promis, ce que les Israélites connaîtront d'ailleurs et à plusieurs reprises. En effet, ils ont désobéi et conclu des alliances avec des peuplades qu'ils devaient chasser et éventuellement sont eux-mêmes tombés dans l'idolâtrie la plus sordide. Nous voici arrivés au chapitre 34 qui précise les frontières du pays données à Israël. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse en disant « Ordonne aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, voici quel territoire vous reviendra en possession. Ces frontières sont les suivantes. » Versets 1 à 2. Sur le point de partir à la conquête de la terre promise, les Israélites reçoivent des indications concernant les délimitations exactes du pays qui va du Jourdain à la mer Méditerranée. Ces frontières ne seront effectives qu'au temps du roi Salomon, quelques 5 siècles plus tard. Le texte précise en détail les limites d'Israël, mais bien des noms de lieux nous sont totalement inconnus. En tout cas, c'était assez grand et incluait un bon bout du Liban et une grande partie de la Jordanie. Ensuite, le texte continue avec le nom des personnes responsable de faire la répartition du territoire entre les diverses tribus. Je lis ce texte. L'Éternel parla encore à Moïse. Voici les noms des hommes qui procéderont au partage du pays entre vous. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Noun. De plus, vous prendrez un chef par tribu pour répartir le pays. Versets 17 à 18. Cette commission de 10 princes, dont je vous fais grâce des noms, présidée par Éléazar et Josué, est celle qui procédera plus tard à la répartition du pays entre les 9 tribus et demie qui n'avaient pas encore de territoire. L'institution de ce comité fut l'une de ces diverses mesures que Moïse dut prendre avant qu'il ne reçût l'ordre de monter sur le mont Nebo pour y mourir. Maintenant, nous arrivons au chapitre 35 du livre des Nombres, où il est question des villes des Lévites. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain en face de Jéricho, en disant « Ordonne aux Israélites de donner aux Lévites sur la part de propriété qu'ils recevront » des villes où ils pourront s'établir avec des pâturages autour d'elles. Ces villes leur serviront de résidence et ils disposeront des terres alentour pour leur bétail, leurs biens et tous leurs animaux. Vous leur céderez donc en tout 48 villes, chacune avec ses terres avoisinantes. Vous prendrez ces villes sur les patrimoines fonciers des Israélites en proportion du territoire qu'elle aura reçu. Versets 1 à 3 et 7 à 8. Moïse assigne aux Lévites 48 villes où ils habiteront et autour desquelles ils auront des pâturages pour leurs bestiaux. Tout en demeurant réunis en groupe, ils pourront ainsi maintenir dans toutes les tribus la connaissance de la loi de Dieu et il leur sera plus facile de percevoir les dîmes qui sont leur seule ressource. Dieu se soucie ainsi des Lévites qui, en tant que tribu, ne recevront pas de territoire en propre. Mais ils ne sont pas laissés pour compte. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, Dieu nourrit et s'occupe du plus petit passereau. Combien, et à plus forte raison, prendra-t-il soin des enfants des hommes, de vous et de moi ?